Bonjour chers auditeurs et bienvenue au panorama économique de ce week-end. Daniel Tembinzoni et Agathe Mpona Elema vous le présentent. Au menu de votre magazine, les rubriques dossiers, reportages et matières premières. Le panorama économique d'aujourd'hui reviendra largement sur le programme quinquennal du gouvernement Matata Ponyo, présenté devant les élus du peuple cette semaine. Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, nous en parlerons également avec le deuxième rapport de cette initiative publié en mars dernier. Les commerçants congolais qui fréquentent la Chine et autres pays africains sommés à régulariser leurs engagements vis-à-vis des partenaires étrangers. Vous suivrez l'appel de Soumaïli, président de l'Association des importateurs du Katanga. Panorama économique, vous le savez, c'est la rétrospective de l'actualité économique commentée et analysée par un invité au studio. L'invité d'aujourd'hui, c'est bienvenue Marie Bakoumania. C'est un habitué de l'émission, analyste économique et surtout journaliste économique, responsable du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Bonjour, bienvenue Marie.
Bonjour Agathe.
Et bienvenue à Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Cette semaine a commencé par la présentation à l'Assemblée nationale lundi du programme du gouvernement Matata pour 5 ans et c'est le premier dossier de cette semaine.
Dans sa présentation de lundi à Gap, le Premier ministre a d'abord décrit la situation politique, sociale et économique actuelle, s'est posé des questions liées à l'amélioration du tableau moins reluisant que présente la RDC avant de proposer les voies de sortie. Le condensé de cette présentation avec Mila Kimbuni.
C'est un programme assez ambitieux avec pour objectif hisser la RDC au rang des pays émergents et à l'horizon 2016, faire du Congo un pays à revenus intermédiaires. Quel diagnostic Matata Ponyo fait de l'état du pays actuellement? C'est un tableau pas très reluisant. Matata Ponyo.
Le climat des affaires demeure émaillé de plusieurs obstacles d'ordre administratif, légal et réglementaire. La RDC occupe la 170e position. Je dis bien 178e position, notamment à cause de sa faible capacité d'attirer les investissements privés. S'agissant du secteur financier, il est à noter que les volets bancaires, bien que représentant quelques faiblesses, connaît une expansion à la suite des mesures d'assainissement et du maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Cependant, la croissance enregistrée dans ce secteur ne s'est pas propagée de toute manière parce qu'il reste une certaine léthargie prononcée avec un monopole dans le secteur des assurances.
Le Premier ministre compte faire la différence avec le quinquennat passé, marqué par une léthargie malgré les différentes réformes entreprises. Matata Ponyo s'est posé plusieurs questions.
La RDC reste un vrai scandale au plan géologique, au plan énergétique, au plan forestier, au plan halieutique, au plan touristique et j'en passe. Mais pourquoi seulement 11% de notre population vit-elle avec moins de 1000 francs congolais par jour? La RDC a renoué avec la croissance économique positive depuis 2002. Mais que devons-nous faire pour que la majorité de notre population en profite?
En réponse, le chef du gouvernement a invité tous les Congolais au respect des textes légaux. Beaucoup d'efforts, a-t-il dit, seront orientés vers le secteur privé, moteur du développement. La recommandation de Matata Ponyo aux opérateurs économiques.
Les lois et règlements du pays doivent scrupuleusement être respectés par les opérateurs économiques. C'est la condition sine qua non pour qu'ils bénéficient d'un soutien sans faille du gouvernement. Sommes-nous devenus une société qui néglige les normes, qui néglige les valeurs, qui néglige les standards et qui néglige les repères?
Ce programme a suscité plusieurs questions des députés nationaux, questions auxquelles le Premier ministre a répondu avant l'investiture de son gouvernement.
Nous enchaînons. Ce Premier ministre était de nouveau mercredi devant les députés nationaux. Daniel.
Matata Ponyo venait répondre aux différentes préoccupations des élus du peuple, préoccupations regroupées en 6 axes dont le social, le politique, l'économie, la sécurité et la justice. Nadine Foula.
Ces préoccupations concernaient les secteurs politiques et les institutions, les secteurs économiques, social, sécuritaire et juridique. Une autre question touchait le chronogramme, le suivi et l'évaluation du programme de ce nouveau gouvernement. À ce sujet, Matata Ponyo promet de présenter très prochainement le budget 2012 où l'on y trouvera l'évaluation chiffrée du dit programme. S'agissant du suivi et de l'évaluation de l'exécution de ce programme, il a précisé qu'il faudrait mettre des feuilles de route de chaque ministère. Celles-ci serviront d'outils de contrôle pour chaque secteur concerné. Quant au secteur économique, il a souligné qu'actuellement, les prévisions du taux de croissance économique de la RDC tournent autour de 7% en moyenne et l'inflation à moins de deux chiffres. Malgré cela, Matata Ponyo reste plutôt optimiste.
Le projet de pôle et corridor de croissance sur l'axe Matadi-Kinshasa-Kikwit est à un stade de préparation très avancé. Ce projet inclut la zone économique spéciale de Maluku.
Et nous revoilà dans ce studio avec notre invité. Bienvenue Marie Bakoumania qui a suivi très attentivement ces éléments qui sont passés sur le programme quinquennal du gouvernement Matata Ponyo. Alors bienvenue, ce programme nous le savons a été adopté comme bien sûr on pouvait s'y attendre. Mais s'il faut le critiquer, critiquer notamment les aspects liés à l'économie de ce programme, qu'est-ce que vous diriez?
Ben, je prendrai les aveux même du Premier ministre lorsqu'il dit que le potentiel fiscal de la République démocratique du Congo est de l'ordre de 20 milliards de dollars américains par exercice, et lui-même situe les capacités du gouvernement à mobiliser les ressources internes à 5 milliards, je pense que le programme souffre par une absence d'ambition de réaliser mieux. Je prends également l'aspect lié au climat des affaires, ce qui constitue pour moi une contradiction dans la mesure où le Premier ministre prétend compter sur le secteur privé dans un climat des affaires morose et tout à fait vicié comme on connaît actuellement. Donc les efforts qui doivent être menés, qui doivent être portés dans ce secteur dans l'amélioration du climat des affaires devraient constituer en mon sens la priorité des priorités avant de compter sur le secteur privé. Il faut commencer par les attirer avant de compter sur eux. Et là, lorsqu'on a une évasion fiscale acceptée par le gouvernement de l'ordre de 15 milliards, on doit s'interroger sur la réelle volonté de vouloir mobiliser réellement les ressources. Et je crois que l'un des députés qui est passé à la tribune, Sambo Kolombe, a démontré que le gouvernement était sur une pente qui ne pouvait pas lui permettre justement de rentrer en possession, de rechercher justement ces 20 milliards qui sont en train de tournoyer à des endroits que le gouvernement ne peut pas contrôler. Alors moi je suis d'avis que les prévisions telles que le gouvernement l'a prévu, notamment un taux de croissance à deux chiffres. La redistribution de cette croissance pose problème parce que la croissance jusque-là n'est enregistrée que dans le secteur minier et lorsque l'on sait que le secteur minier n'est pas très très pourvoyeur d'emplois, la redistribution de du produit de la croissance ne peut pas se faire sentir. Il faudrait que le gouvernement puisse insister sur les secteurs agricoles, le secteur agricole qui peut arriver à employer plus de 80% de la population qui constitue cette masse travailleuse qui n'a pas d'emploi parce qu'il n'a pas des possibilités pour pouvoir se mettre réellement au travail.
Bienvenue Marie, RDC pays émergent à l'horizon 2007. Vous disiez tantôt que ce programme souffrait d'ambition, donc pour vous, ce rêve ne sera qu'un rêve.
Mais justement, je pense que c'est même la raison fondamentale qui a poussé le Premier ministre et le gouvernement à ne pas se hasarder dans les chiffres, un langage plutôt propre aux économistes et financiers. Les programmes présentés à l'Assemblée nationale souffrent d'une absence criante de chiffres, dans la mesure où je pense que les vraies ambitions, on ne peut pas... Je donne raison à ceux qui disent que c'est une catalogue des bonnes intentions, parce que lorsqu'on est dans un programme quinquennal et que on ne se donne pas la peine de livrer des chiffres pour la matérialisation.
Mais il a répondu à cela en disant que chaque ministère sera doté d'une feuille de route, donc le chronogramme et les chiffres, il faudra aller les trouver secteur par secteur dans chaque ministère.
Vous savez madame, en ce moment-là, on n'a pas besoin, c'est que le Premier ministre confirme qu'il est venu présenter à la représentation nationale une catalogue des bonnes intentions, parce qu'il n'a pas encore les chiffres. Donc ce que le Premier ministre nous a vendu, c'est du vent. Finalement, parce qu'il a voulu, il a avoué du haut de la tribune que les chiffres viendront après, que les chiffres seront présentés lors de la présentation du budget. Mais le programme en lui, même Gizenga qui n'est pas économiste, quand il a présenté le programme, il avait même les ambitions jusqu'en 2014, il avait avec lui des chiffres. Et si l'on a du respect pour la population, si l'on a du respect pour les députés élus qui représentent la population, on vient avec des chiffres, avec des prévisions. Et c'est pourquoi on est gouvernement. Si on n'a pas de prévision, si on n'a pas prévu le coût d'un programme, pourquoi le présenter? Je pense que le travail n'a pas encore été fini. Pourquoi aller vite en besogne? Bon, ça pose également le problème politique. Pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps? Le président a été élu depuis le 20 et jusque-là, 5 mois après, on n'avait pas toujours un programme de gouvernement. Et en campagne électorale, on a vendu quoi à la population? Bon, ce sont des aspects politiques de la question. Mais sur le plan purement économique, il y a beaucoup à redire. Les ambitions ne sont pas les ambitions d'un pays comme la République démocratique du Congo.
Elles placent les oreilles, certainement.
Les ambitions, ils ne sont pas là. Hein, les intentions qui ont été proclamées, en économie, on ne consomme pas les intentions.
Les éminents députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce programme, Bienvenue Marie.
Écoutez, la politique et l'économique ne vont jamais de pair. Hein, la politique a ses raisons que l'économique ne connaît pas. L'économique connaît les chiffres et les statistiques, ainsi que les théories. Ce sont les trois choses qui conduisent le secteur économique. Mais quand on amène des dissertations, un catalogue d'intentions, comme on a entendu les politiques, c'est pas leur affaire. Ils se disent, bon, c'est tant mieux, on adopte, on a besoin d'un gouvernement, allons-y. Et même là, pour moi, je considère que les députés ont été piégés. Ils sont piégés. De quelle manière ils vont évaluer ces programmes? Parce qu'ils ne disposent d'aucun repère. Il n'y a aucun repère chiffré. Ils vont l'évaluer comment?
Il y aura un budget tout à l'heure, ça sera déjà une échéance.
Madame, le budget sera pour un exercice. Or, nous avons un programme quinquennal de 5 ans. Ouais. De 5 ans. Là, ça devait être global. C'est un exercice. On pourrait évaluer un exercice et le reste des autres exercices. Je pense qu'il y a un vrai problème. Le Premier ministre doit rapidement, lors de la présentation du budget 2012, nous tranquilliser. Hein, c'est une exigence républicaine que nous lui faisons. Nous tranquilliser en nous donnant des estimations sur la réalisation de ce programme ambitieux. Et le Premier ministre doit également nous tranquilliser en nous proposant un budget ambitieux. Pas 5 milliards de dollars en ressources internes, parce qu'il y a 20 milliards qui
comme
sont...
Comme il l'a dit lui-même.
Mais il y a 20 milliards qui sont en divagation. Il faut les chercher où ils sont. Moi, je pense que pour la première année, on a identifié, les experts disent qu'il y a 20 milliards qui circulent hors circuit, il faut ne serait-ce que prendre 15 milliards, ce serait ambitieux.
Bienvenue Marie, le Premier ministre a pensé maintenir l'inflation à deux chiffres, y aurait-il un risque de dérapage?
Les risques de dérapage sont bien là. La situation à l'est du pays avec la guerre qui est en train de reprendre, les bruits de bottes sont de plus en plus persistants à l'est. Ne me demandez pas à inviter le président de la République et le Premier ministre à ne pas dépenser pour sécuriser l'est. En tout cas, à mon sens, si les cadres macroéconomiques pourraient sauter dans la mesure où nous devons faire face à la situation à l'est, et ce serait le sacrifice qu'il faudrait consentir. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire que l'inflation sera maintenue à ce rythme-là et que la situation à l'est va perdurer et que la paix ne va pas revenir rapidement et que s'il n'y a pas de moyens, on va laisser. Non. Le pays, un seul pan du pays ne doit être cédé à qui que ce soit et tous les moyens doivent être concentrés à ce propos et pour la défense du pays. Et là, le cadre macroéconomique risque d'en subir le contre-coup. Et bon, j'aimerais bien voir comment cette exigence de la protection du territoire national pourrait être conciliée avec les exigences de la maîtrise du cadre macroéconomique.
Le temps pour nous d'en venir à ce deuxième dossier. L'Union européenne s'apprête à débourser en faveur des pays ACP, le 11e Fonds européen de développement. Et c'est le deuxième dossier donc de cette semaine, Daniel.
Pour la RDC, l'un des bénéficiaires, l'heure est à présent aux consultations entre le gouvernement, la société civile et autres partenaires. Ceci en vue d'une gestion efficiente de ce fonds. Mais vers quel secteur orienter le fonds et pour quel impact économique sur le développement des bénéficiaires? L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, invité de Écho d'économie cette semaine, mardi donc, a répondu à ces questions. C'était en marge de la journée de l'Europe célébrée le 9 mai de chaque année. On écoute Jean-Michel Dumont.
Globalement, on peut estimer depuis 2006 que l'Union européenne a dépensé 1 milliard d'euros en République démocratique du Congo, environ 200 millions d'euros par an à l'heure actuelle, que l'ensemble de l'aide qui a été distribuée par les pays d'Union européenne plus Union européenne peuvent être estimés à 6 milliards d'euros. presque, disons, 8 à 9 milliards de dollars qui ont été dépensés en RDC.
Environ 6 milliards d'euros de 2006 à 2012 et actuellement on entre dans une autre phase, c'est le 11e fonds. Alors où en est-on actuellement ?
À l'heure actuelle, on est dans une phase de réflexion, dans une discussion qui engagera le gouvernement congolais sur la base du programme du gouvernement. Avec la société civile, nous ferons deux réunions dans le courant du mois de juin avec toutes les organisations qui sont particulièrement engagées dans le domaine développement, de façon à ce que notre argent soit utilisé le plus intelligemment possible. Nous sommes dans une crise économique et monétaire en Europe, et malgré cette crise, 16 pays membres de l'Union européenne ont continué à augmenter leur aide à l'Afrique subsaharienne. Donc, les contribuables sont très vigilants et nous souhaitons donc que ce soit utilisé le plus intelligemment possible. Parce que le vrai problème, c'est que ce pays a des potentialités extraordinaires. Il a aujourd'hui une croissance économique qui tourne autour de 6-7%. Le Premier ministre espère pouvoir la porter à deux chiffres. Le contrôle des dépenses de l'État est bien fait. L'inflation est petit à petit maîtrisée. Le cours de la monnaie congolaise se tient, mais la population n'en bénéficie pas encore suffisamment. Les recettes du budget de l'État ont augmenté dans des proportions importantes au cours des dernières années. C'est une bonne chose, mais c'est encore insuffisant. Et comme il l'a souligné, le secteur des mines, par exemple, doit contribuer plus aux recettes fiscales.
Du point de vue économique, quels pourraient en être les impacts ?
Les objectifs sont très clairs. C'est renforcer la gouvernance du pays de façon à améliorer le climat des affaires et à favoriser la venue d'investisseurs qui puissent développer le secteur productif. On est à l'heure actuelle. Le deuxième aspect sera les infrastructures et notamment les voies de communication parce que c'est vital pour le développement de l'économie de ce pays.
Et nous retrouvons, bienvenue Marie Bakoumania, c'est lui qui commente et analyse avec nous l'actualité économique de cette semaine. L'Europe, vous l'avez suivi, ne cesse de financer la RDC dans de nombreux secteurs, mais à votre avis, bienvenue. Est-ce que cette aide profite réellement à la RDC ? Pourquoi, malgré tout cela, vous avez entendu les chiffres, pourquoi la RDC ne décolle toujours pas ?
Ben écoutez, on est dans un tel gouffre que le décollage ne peut pas être le fait d'un coup de pouce donné par l'Union européenne. Il faut des moyens colossaux, 6 milliards de 2006 à 2012. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi peu d'argent. Au regard de l'immensité de problèmes qui se posent en République démocratique du Congo, j'ai aimé par exemple que le chef de la mission de l'Union européenne dise qu'il faut concentrer suffisamment d'efforts sous la gouvernance et sous l'amélioration du climat des affaires. Le développement, on ne peut le prétendre que quand il y a production. Et la production ne peut provenir dans les cas d'un pays comme la RDC que lorsque le secteur privé est très actif. Constatez seulement avec moi que les banques qui écument la RDC, aucune banque n'est réellement congolaise.
C'est un handicap à l'économie.
C'est un sérieux handicap. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie nationale ne peut-elle pas investir dans le secteur, ne se développe-t-elle pas? La classe moyenne, pourquoi est-ce qu'elle ne se développe pas? Le climat des affaires, c'est pas seulement les étrangers, c'est également des Congolais qui voudraient bien investir dans leur pays. Est-ce que les administrations permettent qu'à ce qu'ils puissent avoir les moyens de s'épanouir? Quand on a une pression fiscale telle qu'on connaît. Moi, je prends l'exemple de mon employeur, le potentiel. Quand on demande le potentiel de payer, par exemple, au fisc 40 000 dollars, il trouvera ça où ?
Mais d'un côté, bienvenue, vous vous plaignez du fait que la RDC a une très faible capacité de collecte de taxes et impôts, et de l'autre côté, vous parlez de pression fiscale.
Mais écoutez, le problème, c'est justement là le problème. Les 20% qui payent les impôts, on exerce une très forte pression sur eux. Et les 80% autres qui ne payent rien, on ne fournit aucun effort
pour les récupérer.
C'est ça le contraste. On ferait mieux d'atténuer la pression sur ceux qui payent et d'élargir l'assiette. En ce moment-là, plus de personnes mettront les mains à la poche, plus de personnes paieront, il y aura un peu plus d'argent.
Un effort a été fait dans ce sens-là avec la TVA, il faut le dire.
Ce n'est qu'un pan. Il n'y a pas que la fiscalité normale. Je prends l'exemple de la SONAS. On est en train de traquer les gens aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les Congolais, les clients ont fait? Ils gardent leur véhicule à la maison. après 16 heures, ils sortent, ils font leurs courses. Et pourtant, si on avait mis en place un tarif préférent, un tarif accessible à tous, ben, tout le monde aurait payé et on aurait reçu beaucoup plus d'argent. La masse à recevoir allait être importante et on allait faire face à beaucoup plus de choses. Et de l'autre côté, bon, évidemment, il y a aussi l'autre corollaire. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ça, c'est la gouvernance. Et là, j'ai beaucoup aimé que le représentant de l'Union européenne insiste à ce qu'on puisse améliorer la gouvernance, parce que dans ce pays, il y a un vrai problème de gouvernance qu'il faille améliorer rapidement. Matata Tamponio, peut-être qu'il va imprimer un autre rythme au niveau de la gouvernance, ben, attendons voir. Il a les présomptions positives de la part de tous les observateurs, avec le gouvernement qu'il a constitué en majorité des technocrates.
Et les preuves qu'il a faites quand il était au ministère des Finances.
Il faut le lui reconnaître, la rigueur et l'orthodoxie dont il a fait preuve au ministère des Finances. On espère qu'il va imprimer le même rythme au niveau du gouvernement et les autres ministres vont répercuter ces rythmes au niveau des différents ministères et des administrations.
Le troisième et dernier dossier de cette émission, c'est le président de l'Association des commerçants importateurs congolais du Katanga qui appelle les opérateurs économiques qui fréquentent l'Asie à respecter les engagements pris avec leurs partenaires étrangers.
D'après Soumaïli Kibakuma, est-ce que certains commerçants prennent des marchandises à crédit en Chine, par exemple, et n'y retournent pas pour payer, ce qui ternit l'image des autres opérateurs économiques et même du pays? Soumaïli Kibakuma donne ici un autre exemple du non-respect des engagements commerciaux. On l'écoute au micro de Denise Maéo.
Africa Line, c'est une entreprise de transport maritime. Cette entreprise-là a donné confiance aux Congolais que nous connaissons ici, parce que nous ne voulons pas les citer. Ils ont beaucoup de conteneurs ici. Quand l'Africa Line demande le retour de ces conteneurs, les conteneurs ne rentrent pas. Maintenant, on peut totaliser 10 ans, 15 ans. Nous avons eu la plainte qu'on a déposée chez nous, là, au bureau, à Dar es Salaam. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire au gouvernement de prendre quand même des dispositions pour les Congolais là qui ne veulent pas retourner le conteneur d'autrui, soit différé devant la justice pour que l'Afrique puisse quand même se retrouver dans son droit.
Bienvenue Marie, est-ce que vous avez un commentaire?
Bien sûr, le climat des affaires. Il y a aussi qui exerce le commerce dans ce pays. Est-ce qu'ils sont identifiés ces gens? Est-ce que le gouvernement est en mesure de mettre la main sur ces personnes qui détiennent par derrière eux les conteneurs des autres? Je pense qu'il y a ces problèmes de gouvernance qui nous poursuit partout et ces problèmes de climat des affaires qui voudraient également que l'amélioration du climat des affaires voudrait également que l'on puisse contrôler les différents acteurs. On doit savoir qui fait quoi, qui importe où, qui importe quoi et à quelles conditions. Hein, c'est à ce niveau-là qu'on aura la maîtrise de ces petits paramètres fondamentaux qu'on peut prétendre réellement avoir une stabilité macroéconomique et avec des répercussions sur le vécu quotidien des personnes, des Congolais.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Les perspectives de l'économie congolaise sont favorables pour la négociation d'un nouveau programme censé succéder au PEC 2, l'actuel programme économique du gouvernement en juin 2012, Daniel.
C'est le représentant résident du FMI à Kinshasa qui l'a dit au sortir d'une audience le week-end dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Samir Jaja a dit que la situation est appréciable au niveau des structures macroéconomiques. C'est le cas notamment de l'inflation jugée faible, de la stabilité du taux de change et des dépenses qui sont sous contrôle. Le conseil d'administration du FMI avait jugé satisfaisantes les trois premières revues semestrielle du PEG 2. La quatrième revue n'a pas encore été sanctionnée en raison du contexte électoral en RDC, justifie le FMI. La mise en place effective des institutions issues des élections présidentielles et législatives est également un préalable à la conclusion de cette quatrième revue.
Et les cinq syndicalistes du Centre d'évaluation d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC qui ont dénoncé il y a quelque temps la mégestion de leur entreprise viennent d'être licenciés.
Rappelons que la semaine dernière, alors qu'ils passaient dans notre émission Écho d'économie la semaine dernière, le DG avait dit avoir saisi l'inspecteur général du travail et que si celui-ci l'autorisait, il les mettrait à la porte pour faute lourde. Et voilà qui est arrivé. Pour Alexis Mikanji, la démarche de ces derniers n'était pas syndicale. Ils auraient péché par le fait qu'ils ont publié un document censé être interne et secret à l'entreprise.
Et voilà quelques nouvelles en bref. Est-ce que bienvenue Marie qui les a suivis, je le pense, a quelque chose à dire à ce sujet, le satisfecit du FMI?
Ah oui, le satisfecit du FMI, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonne pas que le FMI soit satisfait, qu'il apprécie la situation actuelle. Ce sont des paramètres qui arrangent ces institutions financières internationales. Est-ce que ces paramètres arrangent également la population congolaise dans son vécu quotidien? Je ne le crois pas. La révocation des syndicalistes, et c'est seulement dans ce pays où l'on révoque des syndicalistes à tous les bras. À y voir de très près, vous constaterez que ces syndicalistes n'ont fait que leur travail et on les a révoqués. Bon, dites-vous, ceux qui vont les succéder, est-ce qu'ils défendront les travailleurs? Je doute fort.
Panorama économique, matière première.
Accroître la transparence et la responsabilité des acteurs du secteur extractif, pousser les entreprises à publier tout ce qu'elles payent au trésor public et l'État à déclarer ce qu'il a reçu à titre d'impôts et de taxes. Tels sont les objectifs de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive et c'est notre rubrique matière première.
Son coordonnateur national Marc Jérémy Doumba a réuni la presse à Kinshasa jeudi pour échanger sur le récent rapport publié en mars dernier portant sur la période 2008-2009. Reportage.
Il ressort de ce rapport que les entreprises pétrolières ont été caractérisées par une transparence dans les déclarations des impôts versés à l'État pour la période 2008-2009, tandis qu'il règne encore une opacité dans le secteur des mines. Aussi, certaines entreprises minières ont laissé paraître des écarts entre leur production et ceux qu'elles ont déclaré avoir payé au trésor public. En fonction de ce rapport, le coordonnateur de l'ITIE, le professeur Marc-Jérémy Doumba, recommande une formation et une sensibilisation à l'ITIE pour les entreprises minières et pour les régies financières. On l'écoute.
Pour que les régies financières acceptent de participer à la sensibilisation par des experts de ces régies financières qui savent quelque chose sur la fiscalité, qui connaissent le secteur minier, aussi de la part des entreprises. Ce n'est pas tout le monde qui veut de la transparence. Il y a des entreprises au Katanga, dans les entreprises minières, qui n'en veulent pas du tout. Beaucoup d'entreprises dirigées par certaines personnalités de l'Orient ne veulent pas de la transparence.
Selon lui, l'administration fiscale devrait également se moderniser.
C'est du côté de la DGRANDE principalement où l'outil de stockage des bases de données est encore manuel. Comment est-ce qu'on pourra avoir des informations assez fiables? Il faudrait d'abord améliorer l'outil au niveau de certaines régies financières. Il faut aussi qu'on affecte des personnes, ressources qui comprennent le processus ITIE pour améliorer leur déclaration.
La RDC a adhéré à l'ITIE en 2005. Elle a publié son premier rapport en 2011. Il portait sur l'année 2007 et son dernier rapport en 2012 qui portait sur la période 2008-2009. L'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive projette de sortir un prochain rapport d'ici la fin de l'année pour la période 2010-2011. Ces rapports, mis à la disposition du public, devraient servir à éveiller l'opinion sur ce que l'État fait des recettes issues des industries extractives, à savoir la forêt, les hydrocarbures et les mines. Et voilà, nous parlons de transparence dans l'industrie extractive. Vous avez suivi le prof qui déplore une opacité dans le secteur minier, mais le secteur pétrolier, quand même, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je lui souhaite la bienvenue pour sa confirmation comme coordonnateur, je crois. Mais seulement, il fustige ce que les autres ont fait, mais ce qu'il y a également à faire, nous le fustigeons. On a connu un recul par rapport au premier rapport. Le rapport qui a été publié dernièrement englobe tout. On ne sait pas suivre, par exemple, peut-être que Fungurume a payé quoi, à qui, et combien. On a tout pris, on a tout globalisé à tel point que l'étudiant qui est censé nous assurer cette transparence s'est illustré par une opacité. En ce moment-là, lorsque l'organisme qui est censé nous assurer, nous apporter cette transparence s'illustre par une telle opacité, ben, on est perdu.
En espérant donc que le troisième rapport qui sera publié en juin prochain, ou à la fin de l'année, en juin,
et un rapport qui ne sera pas, j'espère que ça ne sera pas fait dans la précipitation.
En espérant que ce rapport pourra apporter plus d'éclairage sur le secteur extractif. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous. Bienvenue Marie.
Merci madame.
D'avoir été des nôtres. Le panorama économique de ce week-end, c'est fini. Merci chers auditeurs de votre fidélité au programme économique de Radio Okapi. Suivez, chers auditeurs, du lundi au vendredi à 18h15, heure de Kinshasa, Écho d'économie. Mais d'ici là, bon week-end en compagnie des programmes de votre radio.